Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette édition de 90 Minutes Info. Le débat commence juste après. Le rappel des titres avec Adrien Spiteri.
L'enquête s'accélère dans l'affaire Pierre Palmade. La garde à vue de l'humoriste est prolongée à l'hôpital de Melun. Les deux passagers présumés du véhicule sont eux entendus à l'hôtel de police de la ville. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans un grave accident de voiture. Trois personnes ont été grièvement blessées. Pour rappel, une mère a perdu son enfant dans ce drame. Emmanuel Macron a reçu aujourd'hui le forum de l'Islam de France. Le président appelle à redoubler d'efforts pour sortir des interférences. Elles nuisent selon lui au développement, je cite, d'un islam des Lumières en France. Il promet également de réinvestir massivement dans les études d'islamologie. Et puis Lactalis mis en examen pour tromperie aggravée et blessures involontaires. 5 ans après le scandale de la contamination aux salmonelles de lait infantile, il a touché à des dizaines d'enfants. Célia Lettrier de Craon est également visée. Les deux sociétés ont été placées sous contrôle judiciaire.
Et pour commenter l'actu, aujourd'hui, je suis entourée de Céline Pina, essayiste. Bonjour. Bonjour Céline, bienvenue sur ce plateau. À vos côtés, Pascal Bitopanelli. Je rappelle que vous êtes expert en sécurité. En ce jour de mobilisation, bien entendu, cela va grandement nous servir. Karim Zeribi est là également.
Bonjour,
Karim. Et bonjour Florian Tardif, merci de me rejoindre à nouveau sur ce plateau. Vous m'avez accompagné tout au long de la semaine. On va évidemment parler longuement de cette 5e journée de mobilisation pendant les vacances scolaires d'une partie de la France, vous l'aurez compris. Avec quelle portée exactement? Et puis est-ce le prélude à celle du 7 mars. En tout cas, les syndicats ont symboliquement transporté aujourd'hui le cœur de la contestation à Albi, dans le Tarn, dans cette France qui dit non en cœur à la réforme, la France qui n'a pas voté Macron aussi. On va en parler dans le détail tout à l'heure, mais on va retrouver sur place une de nos équipes. En l'occurrence, c'est Marine Sabourin qui nous attend. Bonjour Marine. Je le rappelle, Albi, c'est un peu l'épicentre, si on peut s'exprimer ainsi, de la mobilisation, de la contestation syndicale aujourd'hui.
Oui, tout à fait, Nelly. Alors là, nous sommes devant la tête du cortège où les manifestants scandent « Albi, soulève-toi » depuis tout à l'heure. Alors vous le voyez sur l'image de Thibault Marcheteau, les leaders des syndicats nationaux, Philippe Martinez, Laurent Escuf, Frédéric Souillot. Alors nous avons échangé depuis ceux qui participent, qui nous disaient ce rendez-vous.
Vous l'aurez compris, on a un petit problème de son, mais on va rétablir la liaison sans trop tarder avec Marine qui nous racontera ce qui se passe dans ce cortège. Je vous propose d'écouter, elle venait de l'évoquer dans son propos initial, Frédéric Souillot pour Force Ouvrière, pardon, qui parle de la France qui souffre aujourd'hui.
La mobilisation en province, elle est encore plus forte que dans les grandes métropoles. Pourquoi? Puisque l'inflation, le prix du carburant, pas de hausse de salaire et tout cela, eh bien, la réforme des retraites, c'est le catalyseur de ce que vivent déjà les gens ici. Et c'est un petit peu comme la cocotte minute. Mais on avait prévenu Elisabeth Borne avant même de commencer les mobilisations.
Karim Zeribi, c'est un catalyseur. Effectivement, il y a des luttes, des problèmes qui s'agrègent. Le moment, on l'a souvent dit, est particulièrement mal choisi pour cette réforme parce que cette France périphérique et cette France des régions, elle souffre encore plus que la France des grandes villes où les salaires sont quand même plus élevés, où on a peut-être un petit peu moins d'impact sur l'inflation quand même.
Moi, je pense que c'est la France dans son ensemble qui souffre aujourd'hui. Alors effectivement, on peut cristalliser cette souffrance en province parce qu'on est un peu éloigné des grands centres de décision, des grandes métropoles. Mais en réalité, le prix de l'inflation, les bas salaires, la pénibilité au travail, l'ensemble de nos compatriotes en souffrent. Et dans les grandes métropoles, c'est les prix des loyers qui pénalisent aussi cette réalité. Et on est obligé de vivre à 2 heures des grandes métropoles où on travaille avec les temps de transport, la fatigue. Les Français aujourd'hui sont en colère. colère parce que c'est un tout, en fait, qui les met en colère. Et dans ce tout, ben, on a mis, j'allais dire, l'étincelle de la réforme des retraites, qui est très mal choisie en termes de timing, mais qui est très mal ficelée aussi en termes de justice sociale. Donc, pour ces deux raisons, on a une France qui est en colère, qui, même si elle est moins nombreuse dans la rue aujourd'hui, à mon avis, donc, se donne au rendez-vous le 7 mars pour potentiellement un mouvement reconductible. Moi, je vais vous dire, tous les ingrédients que l'on a aujourd'hui me font penser à 1995. Donc, vous savez, cette réforme Juppé qui n'était pas passée et qui avait fait reculer le gouvernement, je crois aujourd'hui que les Français seront durablement en colère. Il y a une rupture qui est en train de se mettre en place. Je ne comprends pas qu'Elisabeth Borne ait cette posture, j'ai envie de dire, fermée, que Emmanuel Macron soit aussi éloigné de la réalité de ce que vivent les Français. Donc, il va falloir quand même à un moment donné qu'il se réveille.
Alors, on verra à partir du 7 mars si vraiment cette France est bloquée comme en 95, parce que c'était quand même des blocages continus, massifs, avec des secteurs dont on dit qu'ils sont essentiels. On pense évidemment à l'époque aux routiers, c'était les transporteurs qui étaient à la manœuvre, pour certains qui s'en souviennent parmi vous, et les raffineries également. On a perdu Marine Sabourin, mais on a retrouvé, fort heureusement, dans le cortège, une autre de nos équipes, en l'occurrence Antoine Estève. Antoine, quel est le degré de mobilisation à Albi, qui se veut être la vitrine aujourd'hui de cette contestation?
Oui, la vitrine, et vous le voyez sur ces images en direct, je suis au cœur du cortège qui s'étend maintenant sur 1,5 km de long. Alors pour vous, Parisiens, c'est sûr que c'est pas forcément un grand cortège, mais pour Albi, c'est très important. C'est en tout cas ce que nous disent les gens qui ont l'habitude de manifester ici. 1,5 km, pour l'instant, ça ne s'est pas encore vu depuis le début de cette mobilisation contre la réforme des retraites. Je vais m'écarter un petit peu parce que c'est vrai que je suis au milieu de la foule. Le rassemblement est très lent ici. Ils sont partis à 14h45. On attend une arrivée dans le centre-ville d'Albi aux alentours de 16h45-17h. Autre signe important à vous signaler cet après-midi, eh bien c'est le calme de cette manifestation. Beaucoup de syndicats, beaucoup d'entreprises du privé, les grosses industries de la région, on parle de la verrerie, on parle des cuirs, on parle de métallurgie aussi, sont présents ici dans cette manifestation. C'est une manifestation très calme, mais pas forcément très jeune. On a quelques étudiants en queue de cortège qui sont venus nourrir cette manifestation, mais surtout, des personnes âgées, des retraités en très très grand nombre, et aussi des pré-retraités qui se posent des questions forcément pour leur l'âge de leur départ à la retraite.
Merci beaucoup Antoine pour ces premières impressions dans le cortège du Tarn dans 90 minutes info. Alors on parle souvent de l'intersyndicale qui est intacte, et c'est vrai, ce front il ne s'est pas du tout fissuré au fil du temps, alors qu'on est déjà entré pratiquement dans le deuxième mois de la contestation. On sait que Philippe Martinez est particulièrement remonté et déterminé à faire en sorte que le pays soit bloqué. C'est peut-être plus surprenant de l'entendre dans la voix d'un Laurent Berger, mais c'était le cas aujourd'hui.
On le refera le 7, dans une volonté de mettre le pays à l'arrêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'immenses mobilisations le 7. On appelle vraiment à faire un vrai acte volontaire de tout un tas de travailleurs et travailleuses pour sortir, venir se mobiliser. Et puis de mener, on va réfléchir à tout un tas d'initiatives qui nous permettront de montrer notre combativité. Et toujours en ayant à cœur de respecter évidemment les biens et les personnes, mais de montrer qu'on est capable de monter d'un cran, parce que le gouvernement pour l'instant ne nous entend pas.
Florent Tardif, pour qu'on comprenne, monter d'un cran, ça signifie quoi au juste?
Ça veut dire durcir le mouvement, et c'est du fait que l'exécutif a décidé d'opérer via un PLFSS rectificatif. Alors sans rentrer dans les détails, il a décidé d'accélérer le débat parlementaire, et en accélérant le débat parlementaire, il pousse les syndicats à durcir entre guillemets le mouvement pour accentuer la pression sur le gouvernement. C'est-à-dire que les débats à l'Assemblée et au Sénat vont se poursuivre jusqu'au 26 mars. C'est-à-dire qu'au 26 mars, si le texte n'est pas voté, le gouvernement peut légiférer par voie d'ordonnance. Je vous laisse imaginer la contestation dans la rue s'il procède comme cela. C'est ce que souhaitent éviter les syndicats, c'est ce que souhaitent éviter les parlementaires et le gouvernement y compris. Mais en faisant cela, forcément, le gouvernement va pousser les syndicats au mois de mars à accentuer la pression sur ces derniers pour tenter, c'est ce qu'ils espèrent en tout cas, de faire reculer le gouvernement. Donc oui, en actant comme cela, ils vont pousser les syndicats à accentuer le mouvement, à durcir ce dernier, potentiellement à commencer des blocages et des grèves reconductibles. On utilise dorénavant ce terme, c'est-à-dire qu'on ne parle pas uniquement de la journée du 7 mars, on parle de la journée du 7 et du 8 mars. Et il me semble que le 7 mars, c'est un mardi. C'est-à-dire que si vous commencez à bloquer le pays un mardi, puis un mercredi, puis un jeudi, puis un vendredi, et vous bloquez notamment les dépôts pétroliers, imaginez le chaos que cela peut engendrer dans les prochains jours, dans les stations-service, lorsqu'on a vu ce qui s'est passé à l'automne dernier. C'est-à-dire que si les stations-service ne sont pas approvisionnées pendant 3-4 jours, elles ne peuvent l'être le week-end, c'est-à-dire qu'il y aurait potentiellement un chaos au bout d'une semaine uniquement de mobilisation.
Le 7 mars, Céline Pina, clairement, on entre dans une nouvelle séquence. Ça peut se tendre entre le 7, le 26 et même au-delà en fonction de ce qui sera décidé.
Oui, c'est en train de se tendre. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est la symbolique, c'est-à-dire que la retraite, c'est une réforme sociale. Le gouvernement en a fait quelque chose de purement financier, en a fait une réforme comptable. Et ce qui est symbolique, c'est de le faire par le biais du PLFSS, puisque c'est vraiment donné à cette réforme justement une optique purement financière, tout ça par manœuvre, justement parce que ce gouvernement a peur de la démocratie et ne peut pas affronter les syndicats en prenant le temps de la discussion, de la négociation. Il a choisi le pur rapport de force. Pourquoi est-ce qu'il choisit ce pur rapport de force? C'est parce qu'il pense aujourd'hui qu'on peut contourner même la majorité du peuple sur ces questions-là, parce qu'il en a les moyens. La question, c'est, outre le fait qu'il est en train de se mettre à dos une partie de son électorat malgré tout, outre que son mépris est en train de renvoyer, y compris la CFDT, qui est plutôt normalement un atout dans une stratégie de négociation, qui aujourd'hui rejoint la CGT sur des positions extrêmement fermes, il n'a rien à dire et à donner aux Français en termes de perspectives d'avenir. Il est purement dans... ou vous acceptez nos oukases, ou de toute façon le système meurt, ce qui est la dernière manière de traiter des gens en démocratie.
Alors, je vous parlais du cortège d'Albi à l'instant, mais évidemment, vous vous en doutiez, on défile aussi dans la capitale, avec un cortège parti de Bastille pour aller place d'Italie. Bonjour, Mickaël Dos Santos, vous êtes quelque part dans ce cortège où tout est calme pour l'instant. C'est beaucoup concentré hein, sur ceux qui essayaient de mettre à mal ce genre de manifestation. Pour l'instant, ça n'est pas le cas, sauf si vous dites le contraire, là, en fonction de ce que vous observez.
Alors non, je ne vais pas vous contredire. Le cortège est plutôt calme. On se trouve actuellement pont de Sully, non loin de la place de la Bastille. Donc c'est à la fin du cortège. Mais ce que vous voyez actuellement, cette fin de cortège ressemble aussi finalement au milieu de cortège, au début de cortège. C'est-à-dire qu'il y a très peu de manifestants aujourd'hui. Des manifestants qui sont pour la plupart des salariés du service public. Il y a également beaucoup de retraités. Un peu comme à Albi, hein, finalement. La plupart des manifestants avec qui nous avons pu discuter se projettent déjà au 7 mars prochain. Ils sont conscients qu'aujourd'hui la mobilisation n'est pas très forte, mais ils souhaitent déjà se projeter et ils souhaitent que le pays s'arrête totalement le 7 mars prochain. Pour eux, il s'agit finalement de l'unique manière de se faire entendre, de faire plier le gouvernement d'Emmanuel Macron, car ils considèrent pour la plupart que cette réforme des retraites est totalement injuste.
Merci beaucoup sur des images pour vous accompagner de Nicolas Vinclair. Je crois que la CGT vient de communiquer le chiffre de la mobilisation à Paris autour de 300 000 selon le chiffre des syndicats. On verra que la préfecture va sans doute minimiser ce chiffre. 300 000, ça paraît beaucoup quand même pour la capitale. Je crois qu'à Marseille, il y a déjà eu un décompte de l'ordre de 90 000 selon l'intersyndicale, 7 000 pour la préfecture de police. Pascal Bitot-Panelli, comment peut-on expliquer, est-ce qu'il y avait des risques qui pesaient sur ce cortège parisien aujourd'hui? Comment peut-on expliquer qu'il n'y ait pas, a priori, comme ça, hein, même si on n'en est qu'à une heure et demie de mobilisation, mais d'ordinaire, il y avait déjà quelques échauffourées, hein, on l'a vécu ensemble sur ce plateau dans les mobilisations passées. Est-ce que ça s'explique ou est-ce que ça veut dire que c'est une sorte de veillée d'armes pour la prochaine mobilisation où on se regroupe, on se prépare pour le 7 mars?
Écoutez, là, les codes de lecture sont encore pas extrêmement consolidés. On va voir. On constate qu'il y a moins de volume, moins de densité, mais qu'on a quand même du monde, qu'on a toujours une expression contestataire très polymorphe, avec, je trouve, dans la sociologie des défilés, beaucoup de femmes. Donc on voit que dans ce patchwork des colères, on est sur un point de blocage qui nous laisse augurer sur, je dirais, les prochains jours, sans doute une montée des tensions et de la densité des manifestations.
Karim, on rappelle quand même que faire grève, ça coûte. Ça coûte aux salariés, ce qui explique peut-être aussi, d'une certaine manière, que certains sachant que le 7 mars, il y avait déjà un appel à se mobiliser, choisissent leur bataille, choisissent leur combat. Ils se disent, bon, ils font leurs calculs, ils se disent, est-ce que ça vaut le coup d'y aller aujourd'hui ou d'attendre peut-être le 7 mars pour poser une journée de grève.
Mais enfin, vous avez raison, mais de le préciser, c'est la 5e manifestation depuis le début de l'année. C'est pas rien quand même. Nous sommes pas encore à la fin du mois de février et nous avons 5 manifestations qui ont plutôt bien fonctionné en termes de mobilisation sans violence, avec des mots d'ordre qui ont été véhiculés par les organisations syndicales, mais aussi par les femmes et les hommes qui ne sont pas syndiqués, qui n'ont pas d'appartenance partisane dans ces cortèges. Donc ça veut dire que la mobilisation est forte, que la colère est grande dans le pays, et je crois effectivement que beaucoup vont mettre leur force le 7 mars, vous avez raison de le signaler. Pourquoi ? Parce que le 7 mars, c'est vraiment le grand coup pour lequel veulent frapper les syndicats, et ils veulent, comme l'a dit Florian tout à l'heure, évoquer la reconduction. Ça veut dire que c'est plus de one shot potentiellement. Le 7 mars, ça peut découler sur le 8, sur le 9, sur le 10, et puis on peut avoir un mouvement dur. Moi, je suis frappé de voir que la CFDT, et Laurent Berger, vous l'avez signalé tout à l'heure et souligné, Nelly, qui est quand même plutôt un partenaire des forces de gouvernement habituellement, toujours constructif, prêt à dialoguer, donc est dans une position très dure aujourd'hui.
Ils sont chauffés à blanc, là.
Ils sont chauffés à blanc. Ça signifie que cette intersyndicale, elle tient bon, elle est unie, et elle veut frapper très fort le 7 mars.
Et puis, je vous propose d'écouter un politique. Il y en avait un quand même dans le cortège parisien tout à l'heure qui s'était lancé, c'est Fabien Roussel qui nous dit, et là on va faire le lien avec le Parlement, Florian, la rue c'est le dernier recours face au blocage à l'Assemblée.
Quels sont les outils pour les salariés pour se faire entendre ? Malheureusement, eh bien, c'est de manifester, c'est de mettre le pays à l'arrêt et c'est l'ultime choix qui nous reste. Voilà, c'est tout ce que l'on a. Et à l'Assemblée nationale, excusez-nous, hein, à l'Assemblée nationale, avec le temps contraint et avec la volonté des groupes de la majorité et de droite qui ne veulent pas, en fait, qu'il y ait de vote. Ils sont démasqués aujourd'hui. Ils ne veulent pas qu'il y ait de vote sur l'article 7. Ils ne veulent pas qu'on y arrive.
Voilà. Alors là, dans la voix d'un politique qui siège dans l'hémicycle, il n'y a vraiment aucune dissension entre les politiques de gauche et le Front syndical aujourd'hui, hein.
Oui, tout à fait. Et il évoquait de nouveau ce que j'expliquais tout à l'heure, ce choix de l'exécutif de procéder par un PLFSS rectificatif, c'est-à-dire de contraindre les parlementaires à débattre autour de ce projet de loi dans un temps resserré. Et d'ailleurs, ce qu'il dénonçait à l'instant, c'est que l'article 7 qui prévoit de décaler, je le rappelle, l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, qui est l'article phare de la réforme, pourrait ne même pas être débattu au sein de l'Assemblée nationale. Imaginez un petit peu ce que cela peut... dire tout d'abord du débat parlementaire dans notre pays qui est contraint et le message envoyé également aux Français qui protestent contre cette réforme des retraites aujourd'hui mais qui protestent avant tout contre le recul de départ à la retraite de 62 à 64 ans. C'est ça ce qui crispe, je pense, la population, c'est-à-dire un débat qui semble leur échapper, qui échappe également aux parlementaires, même si on pourrait revenir sur la tentative d'obstruction d'une partie d'entre eux, et des Français qui semblent ne pas être entendus par l'exécutif, exécutif qui continue, après on peut discuter de ce choix, de répéter à envie Elisabeth Borne, la première ministre, qui explique que les 64 ans, ce n'est pas négociable. Ils sont prêts à négocier sur certains points, mais les 64 ans, ce n'est pas négociable. C'est ce qui crispe la population et on en arrive à une situation comme celle que nous vivons actuellement.
Un chiffre qu'on vous communiquait déjà hier, une statistique, 69% des Français soutiennent désormais ce combat contre la réforme des retraites au début de la mobilisation. C'est-à-dire que la mobilisation sur le plan de la densité, c'est un petit peu érodé. Mais le degré de détermination des Français qui la contestent, cette réforme, lui, s'est renforcé. On était à 61%, on est passé en l'espace d'un mois à 69%. Ça nous dit quelque chose, surtout ce qui semble renforcer cet état de fait, Céline Pinard, c'est que cette réforme, elle est perçue comme tous, et avec les dernières déclarations des ministres, comme très mal ficelée, en fait.
Elle est perçue comme... le projet qui a amené les retraites en France, le projet porté par le Conseil national de la Résistance qui a mis au point finalement notre sécurité sociale, est un projet qui est à la fois un projet d'avenir et un projet qui donne une certaine vision de la société. Le projet de réforme des retraites, c'est un pur projet d'ajustement comptable qui n'ouvre en fait aucune perspective, aucun travail sur la manière dont fonctionne le marché du travail et sur la manière dont les Français ensuite seront les acteurs de ce type de réforme. Et le fait de le faire en passant par un déni de démocratie d'une brutalité sans nom et encore une fois par un mépris social affiché à la fois par le président et par la première ministre, on a du mal à comprendre comment ces gens-là peuvent s'appeler des politiques. En fait, le sentiment qu'on a, c'est qu'on a des technocrates persuadés que, de toute façon, la démographie nous oblige à casser le système et que tous les moyens sont bons pour le faire parce qu'ils veulent faire le bonheur du peuple malgré lui et un peuple qui se sent complètement dépossédé et humilié. Je pense que c'est le pire cocktail et malheureusement, le gouvernement, une fois de plus, est responsable de la manière dont il a tendu et dramatisé la situation.
Alors, je vous propose d'y revenir un petit peu plus tard. On est encore ensemble pour une heure dans cette émission. On suivra évidemment le déroulement des cortèges toujours en cours à Albi, mais aussi dans la capitale, puisqu'il s'était lancé un petit peu plus tard à Paris. Il y a une autre actualité qui nous occupe depuis pratiquement une semaine maintenant, c'est bien sûr le choc, l'effroi après l'accident dont Pierre Palmade a été jugé responsable. Et on va prendre des nouvelles de ceux qui sont gardés à vue à l'hôtel de police de Melun, où vous vous trouvez, Régine Delfour. Il y a deux passagers de Pierre Palmade qui sont en garde à vue en ce moment.
Oui, ils ont été placés en garde à vue hier. Ils sont auditionnés. Alors, la garde à vue de l'interpellé qui a été interpellé hier matin dans les Hauts-de-Seine, donc, a été prolongée. Cet interpellé, donc, il a 33 ans. Il est de nationalité marocaine. Il est en situation irrégulière. Hier, en fin d'après-midi, il y a un homme qui s'est présenté, qui s'est rendu lui-même à l'hôtel de police de Melun. Il a dit être l'un des passagers de la voiture de Pierre Palmade. Cet homme, donc, il a 34 ans, il est français et il est connu par les services de police, notamment à cause des trafics liés aux stupéfiants. Alors, ces auditions sont très importantes, Nelly, puisque on va enfin savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette voiture? Pourquoi la voiture a été déportée sur la voie de gauche? Pourquoi Pierre Palmade a pris le volant de son véhicule alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool? Et qu'est-ce qu'ils allaient acheter? Si les versions des deux individus ne sont pas concordantes, ils peuvent être confrontés. La prolongation ou non de la garde à vue de cet homme qui s'est rendu, on saura si elle est prolongée donc ce soir en fin de journée.
Merci beaucoup pour ces premières précisions, Régine Delfour. Tandis qu'Amaury Bucaud nous a rejoint pour finir cette demi-heure. Plus d'informations avec vous sur la garde à vue peut-être de Pierre Palmade également, qui se poursuit.
Exactement. Donc elle a été renouvelée. Elle avait été commencée en fait il y a plus de 24 heures, hier, aux alentours de 14 heures. Donc forcément, une garde à vue, c'est 24 heures. Et après, elle peut être renouvelée une nouvelle fois 24 heures. Alors, pour la suite, après, probablement une information judiciaire va être ouverte. Pierre Palmade, à ce moment-là, sera mis en examen, vu son rôle dans l'accident. Et puis, on peut supposer aussi qu'il y ait une demande de placement en détention provisoire. Forcément, la défense de Pierre Palmade, on peut l'imaginer, va demander à ce qu'il ne soit pas placé en détention provisoire, mais simplement sous contrôle judiciaire pour que ce soit moins contraignant pour lui. L'avocat de la famille victime, lui, a laissé entendre quand même que ce placement en détention provisoire serait un signe de fermeté de la justice et donc que la famille demandait cela. Ce n'était pas dit directement, bien sûr, mais on sentait que c'était une aspiration de la famille. Donc là, ce qu'on peut dire en tous les cas, c'est que les enquêteurs ont toutes les pièces du puzzle en main, c'est-à-dire qu'ils ont tous les protagonistes de cet accident. Pierre Palmade, ils l'ont donc en garde à vue depuis hier, puisqu'avant, il n'était pas en état de répondre. Ils ont aussi les deux passagers. Je rappelle que l'un a été interpellé hier à Clichy-Tôt et l'autre s'est rendu au commissariat. Son avocat avait prévenu d'ailleurs la police en disant il va se rendre. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, lui est aussi en garde à vue. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pendant les auditions, le rôle de la police, ça va être de savoir effectivement ce qui s'est passé dans la voiture, mais aussi quel rôle, éventuellement, les deux passagers ont dans la détention de stupéfiants, puisque je rappelle qu'il y a deux enquêtes. Une enquête menée par le commissariat de Melun sur l'accident lui-même et une autre de la gendarmerie sur la détention de stupéfiants.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Allez, on va s'interrompre et puis on retournera du côté de l'Assemblée où il reste à peine plus de 24 heures pour voter, pour se prononcer sur l'examen de ce projet de loi de réforme des retraites. On verra ce qu'il en est si les débats se tiennent dans la même ambiance électrique qu'on a pu apercevoir tout au long de la semaine. Et nous serons bien sûr dans les cortèges que vous apercevez à l'écran. À tout de suite. Il est pratiquement 16 heures à quelques secondes près et il est donc temps de retrouver Mickaël Dorian pour le journal. Bonjour Mickaël.
Bonjour Nelly, bonjour à tous. La garde à vue de Pierre Palmade prolongée de 24 heures, blessé dans l'accident qu'il a provoqué sous l'emprise de la cocaïne. L'humoriste a été transféré hier au centre hospitalier de Melun pour être entendu par les enquêteurs. Les deux passagers de son véhicule soupçonnés d'avoir pris la fuite ont aussi été interpellés et sont actuellement interrogés. Dans le reste de l'actualité, une rafale de Kalachnikov tirée dans le quartier de Malakoff à Nantes, un quartier rongé par le trafic de drogue. Lors de ces tirs, une balle perdue s'est logée dans une chambre à coucher où trois enfants étaient en train de jouer. Mais les problèmes ne datent pas d'aujourd'hui, c'est ce que nous explique ce sujet de Vincent Fandège.
Les impacts de balles sont toujours visibles dans l'appartement de cette famille à Nantes. Dimanche, vers 22h30, plusieurs coups de feu retentissent dans le quartier Malakoff. Une rafale de Kalachnikov est tirée en direction d'un hall d'immeuble. Au moins une balle perdue est venue se loger dans cet appartement du premier étage.
On entendait un gros boom. Et d'un coup, on entend hurler donc les enfants. Il y avait mon bébé de 18 mois qui était dans la chambre. Deux secondes près, c'était lui qui la recevait dans la balle, dans la tête. J'ai mes deux autres enfants de 9 ou 8 ans qui étaient dans le couloir allongé en train de jouer. Et heureusement, comme disaient les policiers, sinon ils la recevaient aussi dans la tête.
Aujourd'hui, cette famille vit dans la peur. Ils dorment tous dans le salon.
Au jour d'aujourd'hui, on n'est pas en sécurité. On est tous les jours dans le salon, allongés presque par terre. Mais les deux chambres de mes enfants, je les ai condamnées par peur. Ma fille a fait un malaise. Ils n'ont pas un sommeil. Ils crient dans leur sommeil. Ma fille, dès qu'elle entend un bruit, malheureusement, elle se jette par terre.
Un logement d'urgence leur a été proposé. Soulagés, les membres de cette famille vont quitter Nantes prochainement.
En 2022, la France n'a jamais produit aussi peu d'électricité. C'est ce qu'annonce le gestionnaire du réseau de transport d'électricité RTE, un record depuis 1992, qui s'explique par une baisse historique de la production nucléaire liée aux difficultés du parc de réacteurs d'EDF. Alors qu'une partie de la France est dans la rue pour cette cinquième journée de mobilisation contre la réforme retraite, Elisabeth Borne, elle, est à Bruxelles. La première ministre a rencontré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour aborder les défis que l'Europe doit relever dans les prochains mois, et notamment sur l'aide apportée à l'Ukraine. On écoute Elisabeth Borne.
L'aide de l'Europe a été et continuera à être massive au plan humanitaire, militaire, financier ou encore économique. Notre détermination à agir s'est aussi traduite par l'adoption de 9 paquets de sanctions contre la Russie et nous travaillons en ce moment même à l'adoption d'un 10e paquet. L'objectif est simple, asphyxier l'économie russe et l'empêcher de financer cette guerre non provoquée et injustifiée.
Et à noter qu'il s'agit de son premier déplacement à Bruxelles en tant que chef du gouvernement. L'actualité internationale à présent, les terribles séismes qui ont ravagé une partie de la Turquie et de la Syrie ont fait près de 40 000 morts. Et les animaux ne sont pas épargnés. Bien sûr, les chances de retrouver des survivants sont quasiment nulles. 10 jours après la catastrophe, mais des miracles arrivent encore. Ces dernières heures, des animaux de compagnie ont pu être extraits des décombres. Michael Dos Santos.
Un chien sorti après 200 heures sous les décombres. Un chaton sauvé avec une grue dans un immeuble prêt à s'effondrer. Dans l'enfer du séisme, les secouristes sont intervenus, quels que soient les battements de cœur. Certaines ONG, comme ITAP et leur devise « Une vie est une vie » en ont fait leur spécialité. L'opportunité d'offrir de belles retrouvailles. A l'inverse, d'autres ont perdu tout espoir, comme ce chien stoïque près de la dépouille de son maître. Restent ceux qui patientent encore, comme ce labrador campé devant chez lui, après plusieurs jours à aboyer.
Depuis qu'il est sorti vivant des décombres, ce chien attend son propriétaire. Nous l'avons emmené à un autre endroit, mais il est revenu. Il continue d'attendre ici. Le propriétaire est toujours dans l'immeuble.
Ironie du sort, ce chien pourra peut-être remercier l'un de ses congénères. Depuis le tremblement de terre, plusieurs d'entre eux ont été mobilisés pour trouver des survivants. Protéo était l'un des 16 chiens de l'équipe de recherche mexicaine. Il a péri après avoir sauvé 2 vies. L'Union européenne a déployé plus d'une centaine de chiens secouristes sur le terrain. À elle seule, la France en compte une dizaine.
Et voilà pour l'actualité, c'est la fin de ce journal. C'est à vous, Nelly Denac, pour la suite de 90 Minutes Info.
Merci beaucoup, toujours en compagnie de Céline Pina, Pascal Bitopanelli et Karim Zeribi. On parle évidemment de cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites du gouvernement avec la contestation qui s'écrit aussi dans les régions, aujourd'hui et en particulier à Albi où le Front syndical s'est donné rendez-vous et où vous vous trouvez, Antoine Estève, le cortège est toujours en cours, quoique peut-être plus clairsemé déjà.
Alors plus clairsemé parce que nous sommes sur une très grande place qui est en ce moment traversée par le cortège au niveau de la gendarmerie nationale à Albi, pour ceux qui connaîtraient le centre d'Albi. Le cortège fait environ 1,7 km de long. On est à 200-300 mètres de plus de longueur par rapport aux deux dernières grandes mobilisations contre la retraite ici à Albi. C'est donc un très très gros cortège qui défile en ce moment à Albi. Derrière cette banderole commune et ses leaders syndicaux nationaux, tous rassemblés autour de Philippe Martinez, mais aussi Force Ouvrière, vous l'avez vu, la CFDT venue en grand nombre aussi. Tous ces syndicats sont unis aujourd'hui avec un seul mot d'ordre. Et puis ce qui est surprenant aussi pour nous qui sommes dans le cortège, eh bien c'est de voir que tout le monde est mélangé, contrairement aux manifestations habituellement où vous avez le secteur de la CGT, le secteur du nouveau parti anticapitaliste, le secteur du parti communiste, le secteur de la CFDT. Eh bien là, tout le monde est mélangé. Vous voyez par exemple en face de moi, ce sont des pompiers du SDIS du Tarn avec leur banderole CGT. Juste un petit peu plus loin là-bas, vous avez des banderoles de la FSU qui sont mélangées avec la CGT. Et encore un petit peu derrière là-bas, vous avez des banderoles du parti communiste qui sont au milieu des gens de la CFDT. Ça prouve vraiment qu'il n'y a pas une organisation séparée comme on a d'habitude dans les cortèges, dans les grands cortèges des manifestations en France, mais vraiment une organisation commune avec des leaders syndicaux qui sont complètement mélangés à l'intérieur de ce cortège.
Merci beaucoup, cher Antoine. Autre ambiance avec une météo un petit peu moins clémente, ça se passe à Paris. Augustin Donadieu, vous êtes dans le cortège de la capitale qui est en train d'arriver place d'Italie avec un petit attroupement devant les forces de l'ordre.
Effectivement, vous le voyez actuellement sur les images de Charles Pousseau, donc le cortège syndical qui vient d'arriver il y a maintenant quelques minutes place d'Italie. C'était son point de chute pour cette cinquième journée de mobilisation. Très peu d'incidents sont à signaler cet après-midi, hormis effectivement quelques éléments radicaux qui ont dessoudé un panneau de signalisation dans l'après-midi pour attaquer une banque, mais l'intervention très rapide des forces de l'ordre ont permis de contenir cette attaque à une agence bancaire. Et puis là, depuis quelques minutes maintenant, au moment où le cortège est en train d'arriver place d'Italie, effectivement, un attroupement qui se crée juste devant le commissariat du 13e arrondissement, commissariat évidemment protégé par des forces de l'ordre, en nombre, qui ont revêtu leur casque et leur bouclier, chose qu'ils n'avaient pas fait depuis le début de l'après-midi. Nous les voyons depuis ce midi très décontractés, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un cortège syndical très peu mouvementé, comparé aux quatre dernières journées de mobilisation. Alors pour le moment, c'est un point non pas de tension mais de crispation ici dans le 13e arrondissement. Pas de jet projectile pour le moment en direction des forces de l'ordre. Tout semble pour le moment être contenu par les forces de l'ordre et le cortège syndical qui lui continue d'arriver place d'Italie.
Merci beaucoup Augustin Donadieu depuis le 13e arrondissement. Pascal Bitopanelli, bon les fins de cortège c'est toujours un tout petit peu plus tendu. Les mots ont un sens, c'est bien qu'ils nous parlent de crispation et pas de tension à proprement parler pour l'instant. Mais évidemment, quand on aperçoit ces images de la place d'Italie, ça rappelle aussi d'autres heures de la mobilisation des Gilets jaunes avec beaucoup de casse à ce moment-là. Bon, ce n'est pas le cas aujourd'hui, fort heureusement. On peut se dire, on peut raisonnablement penser que tout cela va se finir dans le calme.
Écoutez, toujours être très prudent, comme je le dis très souvent dans l'ordre public, puisque la poudre est toujours très près du feu et que une étincelle peut suffire à faire basculer la situation dans ce qu'on appelle des dynamiques de basculement. Pour autant, on constate que jusque-là, les exercices sont bien maîtrisés, d'une part, et que d'autre part, la méthode du préfet de police, Laurent Nunez, est une méthode différente, moins rugueuse, plus concertée, où on sort les forces, les unités et forces mobiles du décor, si j'ose dire, pour les mettre en profondeur, et intervenir que quand on doit extraire, sortir des éléments radicaux. La façon de traiter une double manifestation, c'est-à-dire celle qui déroule dans une dynamique d'avancée normale et le pré-cortège, c'est-à-dire le positionnement où on peut avoir accès à une nébuleuse qui peut contenir des black blocs, des ultra-jaunes, des radicaux et des étudiants un petit peu, on va dire, radicalisés pour le moment, fonctionne. On constate également que lorsqu'on a de la co-organisation, de la co-gestion, quand on a la veille des réunions avec le préfet de police, le directeur de l'ordre public, les organisateurs et les syndicats, on est dans quelque chose qu'on arrive à mieux contenir et à mieux canaliser.
Alors, on va parler politique à présent, et bien sûr, je vous ferai réagir les uns et les autres. Et on va donc se rendre à l'Assemblée nationale, où le compte à rebours a commencé avec le retrait en bloc d'amendements du PCF, mais ça ne suffira sans doute pas. Bonjour Thomas Bonnet, vous êtes sur place. Alors, on le précise, il reste moins de 36 heures, entre 24 et 36 heures. Donc, l'article 7, on le redit, improbable ou bâclé, on n'y arrivera sans doute pas.
Oui, ça semble compliqué puisqu'on assiste depuis la reprise de la séance à des échanges que l'on qualifiera d'animés au sein de l'hémicycle avec quelques passes d'armes encore entre notamment les élus de gauche et les membres du gouvernement. Il faut quand même noter qu'il y a une accélération du rythme parlementaire depuis ce matin, depuis que les élus de la NUPES ont donc décidé de retirer un grand nombre d'amendements. L'idée, c'est d'aller dans le vif du sujet, d'enfin aborder ce fameux article 7 qui porte sur l'âge de départ à la retraite qui serait donc passé de 62 à 64 ans. Maintenant, la question, c'est de savoir quand les députés vont véritablement pouvoir commencer les débats sur cet article 7. Il y a encore beaucoup d'amendements au programme pour cet après-midi. Il se dit que du côté de la NUPES, on pourrait encore en retirer davantage. En tout cas, une chose est sûre, nous sommes dans la dernière ligne droite. Le compte à rebours est lancé puisque, comme vous le savez, les débats prendront fin ici à l'Assemblée nationale, quoi qu'il arrive, ce vendredi soir à minuit.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Karim Zeribi, à qui profite le crime, au fond, sur ces amendements, pour prendre une expression judiciaire ?
Je crois malheureusement que tout un chacun peut tirer profit de cette situation, et, sauf les Français, sauf les manifestants. Mais au sein de l'hémicycle, qui sont tous dans des stratégies, quels que soient les bords, qui peut se nourrir d'une volonté de ne pas aborder le débat qui consiste à trancher sur l'article 7 et surtout à dévoiler les positions de chacun.
Oui.
Parce que c'est ça le sujet. Qui serait en capacité de voter cet article réellement, aujourd'hui, on ne le sait pas. Et je crois qu'on a besoin de clarté. Les Français ont élu une Assemblée nationale qui était censément être à l'image aussi des diverses sensibilités du pays. Donc une rentrée en nombre d'élus donc du RN, comme jamais on a eu sous la Ve République, LR, qui est le parti de droite traditionnel, la majorité présidentielle qui n'est pas une majorité absolue mais qui est relative, des forces de gauche multiples qui sont aussi à l'Assemblée. Donc là, on se disait, on a quand même le panel des sensibilités des Français. On va avoir des vrais débats, on va avoir des vraies confrontations, mais politiques au sens noble du terme. Or, nous avons droit qu'à des invectives, des insultes, un débat en dessous de la ceinture qui n'est pas au niveau de ce qu'on est en droit d'attendre quand on aime la politique, quand on a envie que le pays débatte de l'avenir et des questions fondamentales. Donc là, moi, je me dis, qui a intérêt à ce qu'on vote l'article 7 ? Donc c'est la vraie question qu'on peut se poser. Je ne vais pas les poser, les arguments, mais ce serait trop long. Mais les uns et les autres ont peut-être intérêt à ce qu'on n'y parvienne pas.
Florian Tardif, il y a eu beaucoup de débats au sein de cette coalition de la NUPES sur précisément le retrait des amendements. Clairement, c'est LFI qui a la main et pour l'instant, ils ne plient pas, ils ont retiré à la marge, ça ne suffira pas.
Effectivement, c'est la France Insoumise qui a la main, tout simplement parce que sur les 20 000 amendements qui ont été déposés, 18 000 ont été déposés par les députés de la NUPES et 13 000 ont été déposés par les députés de la France Insoumise. Donc, c'est-à-dire que ce sont eux qui ont la main pour pouvoir accélérer ou justement ralentir le rythme des débats parlementaires. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, sur l'article 7, jamais on n'arrivera au vote de l'article 7. Même si on arrive à l'étude de l'article 7, ce qui est fort peu probable, il y a 4388 amendements rien que sur l'article 7. C'est impossible de les étudier.
On en fait 12 par heure à peu près. Hein.
Voilà, sur 24, voire 36 heures. Et dernier point, avant même qu'on arrive à l'article 7, et c'est là que cela peut être intéressant, si les députés de gauche décident de retirer un certain nombre d'amendements, vu que l'article 7, c'est la partie 2 du projet de loi, alors ça c'est un petit peu technique, il va falloir précédemment voter la partie 1. Et là, il pourrait y avoir un vote, et là, il pourrait y avoir un vote risqué, notamment pour les députés Les Républicains. Est-ce qu'ils voteraient oui ou non la partie 1 qui engage les recettes ? Imaginez bien si les membres des Républicains décident de ne pas voter, c'est-à-dire de s'abstenir ou de voter contre une partie recette, alors même que les Républicains portent à chaque fois qu'ils sont au gouvernement ou même lorsqu'ils sont engagés dans une campagne, que ce soit la campagne présidentielle, législative ou autre campagne municipale par exemple,
des questions
de comptes publics. ça serait inimaginable. Donc là, ça serait intéressant de voir si on arrive jusqu'au vote de cette partie 1. C'est fort peu probable en l'état, mais si on accélère les débats, ça sera intéressant.
Céline Pina, votre réaction face à ces jeux politiques, de politique politicienne qui se jouent dans l'hémicycle, il y a une forme d'irresponsabilité partagée aujourd'hui ?
Une forme d'irresponsabilité ou une forme d'enfermement dans un monde parallèle. C'est-à-dire que tout ce que tu dis est tout à fait juste et parfaitement intéressant, mais combien de Français ont conscience de cet aspect-là de la procédure parlementaire ? Aucun. La seule chose qu'ils voient, c'est que sur une question qui intéresse profondément leur avenir, ils voient des gens qui ont l'air de jouer. Qui n'ont pas l'air de prendre la mesure des problèmes. Leurs représentants ne portent pas leur parole. Ils semblent perdus dans des jeux, dans un espèce d'entre-soi, mais qui concerne malheureusement autant la gauche que la droite. Et quand ils paraissent porter quand même une parole, ils le font d'une manière un petit peu violente, parfois voire un peu vulgaire, qui hérisse profondément le peuple, qui lui a besoin de représentants qui ont de la tenue et dans lequel il a envie de se projeter. Il y a une telle rupture aujourd'hui entre le peuple et ses représentants, que le peuple soit d'accord avec leur positionnement ou pas, qu'on a du mal à... On a l'impression qu'en fait, avec cette réforme des retraites, c'est un peu la crédibilité des politiques en général qui s'abîme de plus en plus.
On a beaucoup parlé d'Elisabeth Borne, d'Olivier Dussopt, évidemment, cible de toutes les invectives dans l'hémicycle. D'ailleurs, on a vu quand même un homme marqué dans ses différentes prises de parole sur les ondes hier. On parle beaucoup moins d'Emmanuel Macron, et pour cause, on ne le voit plus. Écoutez ce qu'en disait Jean-Luc Mélenchon, qui était à Montpellier. Serait-ce le grand retour de Jupiter ?
Le président de la République est plus absent que jamais. Des échos qu'on a, on voit qu'il ne réalise pas l'état de tension du pays, et il n'a pas pris conscience. Et par conséquent, il y a absolument besoin que par une action aussi déterminée que celle d'aujourd'hui, mais surtout celle du 7 mars, que nous avons le temps de préparer, il lui soit donné la leçon qu'il doit recevoir.
Pascal Bitopanelli, réaction peut-être. C'est important aussi la parole de celui qui est à la manœuvre. Hein. C'est lui qui a forgé quand même ce projet. Il a été élu aussi sur un programme. Donc, est-ce qu'il doit rendre des comptes aujourd'hui, Emmanuel Macron, et ne pas laisser uniquement ses ministres aller au combat ?
Je pense que oui, de par sa position, il doit rendre des comptes. Mais son positionnement peut-être lui laisse penser qu'il envoie d'abord au front son gouvernement, sa première ministre, et qu'au final, quand il doit intervenir, il le fait, mais uniquement quand il le veut.
Ça n'a pas toujours été ainsi, quand même, en termes de communication. On l'a vu omniprésent. En fait, il est comme une comète, Emmanuel Macron. Il est soit omniprésent, il occupe l'espace, soit il disparaît complètement du champ quand les choses se tendent, se corsent.
Non mais Nelly, je pense qu'on n'est pas dupe, on est en république qui fonctionne souvent et on le regrette comme une monarchie républicaine, c'est-à-dire qu'on a le roi qui s'est qualifié de Jupiter lui-même, donc un peu au-dessus de la mêlée, il envoie au feu sa première ministre qui va essorer jusqu'au bout, comme l'ont fait tous les présidents de la République avec leur premier ministre, donc ses ministres, et une fois que ce sera passé, il les félicitera. Mais certainement qu'il en changera aussi, pour essayer d'ouvrir une nouvelle page, de repartir sur de nouvelles bases, de créer un nouvel élan, en pensant que les Français oublieront ou auront la défaite moins mauvaise qu'elle ne l'est en réalité. Je pense que le président de la République est dans cette posture-là aujourd'hui. Qui est
les
une
fameux
posture...
ministres par feu, quoi.
Mais, oui. Et en fait, vous l'avez raison de le dire, de le souligner, c'est lui qui voulait cette réforme, c'est lui qui l'a promise pendant la campagne et qui s'est engagé, donc c'est lui qui devrait normalement mouiller le maillot, aller au front, donc devant les Français aujourd'hui, il ne le fait pas. Il se préserve, le président de la République. Donc, et il va aller au bout du bout avec sa première ministre. Donc, et vous verrez que certainement avant l'été, il remaniera, il changera de première ministre. Bon, en tout cas, c'est mon pronostic.
Allez, on va s'interrompre à nouveau sur cette partie-là de l'actualité, mais nous allons évidemment nous intéresser à l'enquête qui se poursuit autour de l'accident causé par Pierre Palmade. Pierre Palmade qui est en garde à vue, mais à l'hôpital de Melun où il a été transporté et où vous vous trouvez, Anne Isabelle Tollet, quelles sont les dernières nouvelles ?
Oui, absolument. Nelly, Pierre Palmade a été transporté hier sous escorte policière depuis le Kremlin Bicêtre vers l'hôpital de Melun, où il est entendu par les enquêteurs depuis hier. Et aujourd'hui, il aurait déclaré qu'il a assez peu de souvenirs sur les circonstances de l'accident qui, je le rappelle, a fait 3 blessés graves, dont un enfant et une femme qui a perdu son bébé. Pierre Palmade, qui donc dit avoir très peu de souvenirs, sait que une enquête pour homicide et blessures involontaires a été ouverte à son endroit. Et la raison pour laquelle Pierre Palmade a été transporté ici, déplacé ici, c'est précisément pour que le juge d'instruction puisse le déférer si à l'issue de la garde à vue, puisque il faut rappeler que Pierre Palmade dans cette affaire risque entre 7 et 10 ans de prison, donc il pourrait immédiatement à l'issue de cette garde à vue aller en prison.
Merci beaucoup Anne-Isabelle Tollet avec les images de Léo Marchelier cet après-midi à Melun. Écoutez aussi ce que disait, et ça c'est intéressant sur la perception de cette affaire et la manière dont la justice devra se pencher dessus sur le fait qu'il ne faut pas accorder de traitement de faveur à la notoriété d'un tel ou un tel. C'est la procureure de Paris qui le disait.
Bien sûr qu'il sera jugé comme n'importe quel Français, et d'ailleurs des opérations de contrôle de produits stupéfiants oui. s'effectuent régulièrement sur la plaque parisienne à la sortie de soirées festives, et donc il n'y a absolument aucun traitement de faveur au regard du produit utilisé ou de la personnalité qui pourrait être concernée par cet usage de produits stupéfiants.
Nous, pour l'isoler. Céline Pina, c'est pas ce qui se passe, selon vous. Hein. C'est plutôt une circonstance aggravante, la notoriété, en l'espèce. Là.
Oui, je trouve en tout cas que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de violence à l'encontre de Pierre Palmade. Alors, ce qui s'est passé est dramatique. Et je comprends que la famille, elle, lui en veut énormément. Ils ont perdu, il y a une dame qui a perdu un bébé. Il y a un enfant et son père qui sont dans une situation dramatique. Pour autant, l'homme enfin, c'est tout le problème des addictions. C'est-à-dire que j'ai entendu, il y a beaucoup de gens qui disent, mais franchement, à son âge, maintenant, le problème de quelqu'un qui est sous une addiction, c'est que ça n'est pas une question d'âge ni de jeunesse. Ce sont moi, je pense que Pierre Palmade va être jugé. On voit bien que l'affaire est instruite, elle est bien instruite, mais que la haine qui se déclenche sur les réseaux sociaux, je la trouve, moi, assez déconcertante.
Karim Zeribi, c'est aussi votre impression ?
Non, mon impression, c'est qu'il est très difficile aujourd'hui de pouvoir évoquer le traitement de faveur ou pas, dans la mesure où on est sur une individualisation des peines dans notre pays et du traitement de la justice. On n'a pas de peine standard, même si le code pénal émet effectivement des peines de prison, des peines d'amende et tout ce que vous voulez. Après, à chaque fois, on a une individualisation de la peine. Sera-t-elle effectivement en faveur de Pierre Palmade ou en sa défaveur ? Nul ne le sait. Quels seront les éléments qui seront pris en compte par les magistrats ? On le verra certainement après coup, parce qu'on aura des explications. Moi, je souhaite, comme bon nombre de Français, je pense, qu'il n'y ait aucun traitement de faveur, mais qu'il n'y ait pas non plus de volonté d'exemplarité particulière sur Pierre Palmade, qu'il soit traité comme un citoyen lambda. Mais est-ce que c'est possible ? Je veux dire, c'est un idéal vers lequel on tend, mais cet idéal, en réalité, on l'atteint très très peu. On sait très bien que quand vous avez les juges, les magistrats ont une personnalité politique en face, elle ne le juge pas comme un citoyen lambda. S'il y a une personne qui a une notoriété médiatique, elle ne le juge pas comme un citoyen lambda. Et je ne dis pas en faveur. C'est souvent la défaveur de ces personnalités, parce que on a une forme de domination des magistrats qui veulent démontrer que la justice c'est eux ils n'en ont que faire de la personnalité de la personne en face. Donc, quelle sera la question ? Moi, ce que j'ai regretté au début de cette affaire, pour tout vous dire, c'est qu'on en ait fait qu'autour de Pierre Palmade. Souvenez-vous les premières heures, Pierre Palmade va mal, Pierre Palmade sa situation de santé. On a omis la situation de santé des anonymes. Donc, il y a des victimes dans cette affaire. Les victimes, c'est pas Pierre Palmade. Il conduisait, il était sous l'emprise de l'alcool. Donc les victimes, il faut qu'on en parle aussi.
De la drogue, pardon.
La cocaïne, c'est ce que je voulais dire.
C'est le temps de s'interrompre. On revient évidemment pour voir quelle est la situation à l'arrivée du cortège parisien à Place d'Italie. On verra si tout est calme, comme ça a été le cas jusqu'à présent. Cette mobilisation, pour l'instant, sans tension majeure à relever. À tout à l'heure. Nous entamons la toute dernière demi-heure de notre émission et avant de retourner dans le cortège parisien avec l'une de nos équipes, je vous propose de prendre connaissance des dernières actus en compagnie d'Adrien Spiteri.
Cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites aujourd'hui à Paris. 300 000 personnes sont présentes dans la rue selon la CGT. Les chiffres du ministère de l'Intérieur n'ont pas encore été communiqués. Les syndicats sont eux à Albi. Ils veulent montrer que la contestation grandit dans les villes moyennes. Le comité exécutif de la FFF se réunira le 28 février prochain. Une réunion décisive pour l'avenir de Noël Le Graët. Hier, le rapport de la mission d'audit de la Fédération française de football a été dévoilé. Il estime que les dérives de comportement du président sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions. Et puis c'est une mesure inédite en Europe. Le Parlement espagnol a voté ce jeudi une loi créant un congé menstruel. Il concerne les femmes souffrant de règles douloureuses. Les députés ont également adopté un texte permettant de changer de genre dès l'âge de 16 ans.
On va parler de politique avant de retourner dans le cortège. Les Français, vous le savez, rejettent maintenant massivement, quasiment en bloc, la réforme des retraites. Et il y a aussi des approximations, voire les incohérences, Florian Tardif, de l'exécutif qui n'ont pas aidé. On l'a encore vérifié ces dernières heures, notamment autour du casse-tête. Enfin, je crois qu'il faut l'appeler ainsi.
1200 euros.
Casse-tête chinois. Alors, 1200 euros à la limite.
On a limite presque clôt le
dossier. À la limite. Moi, je voudrais parler des carrières longues. Et des âges qui sont concernés.
Parler de casse-tête, parce j'ai parlé de roue de l'infortune.
Allez-y.
Plus de roue de la fortune, mais de l'infortune. Pourquoi ? Parce que mardi après-midi, Elisabeth Borne répond à une question d'un député sur le dispositif carrière longue. Elle explique donc qu'un geste va être fait en direction des personnes qui ont commencé à travailler avant 20 ans. Et elle explique que la majorité, avec le gouvernement, va proposer un amendement permettant de créer une quatrième borne d'âge, c'est-à-dire que les personnes qui vont arriver à cette borne d'âge n'auront pas à cotiser 44 ans, mais 43 ans. C'est un peu complexe.
Déjà là, vous m'avez perdu.
Voilà. Fait. Là, déjà, on a perdu la moitié de la population. Donc, pour être clair, on a commencé à essayer de décrypter ce que disait la Première ministre et on s'est rendu compte assez vite avec plusieurs collègues, que ce soit des journalistes politiques ou des journalistes économiques, que la conséquence de ce qui avait été décidé par le gouvernement, cet amendement qui était donc proposé par la Première ministre, c'est que les personnes qui allaient travailler avant l'âge de 20 ans, qui ont travaillé avant l'âge de 20 ans, celles qui ont débuté à 14 ans vont cotiser pendant 44 ans. Celles qui ont cotisé à 15 ans, commencé à 15 ans, vont cotiser 43 ans. C'est-à-dire qu'ils commencent plus tard, mais ils vont cotiser logique. Moins longtemps. Ce qui est tout à fait logique. Mais attendez, à partir de 16 ans, c'est de nouveau 44 ans.
Ah, moins
mais
logique
43
déjà.
Ans, 17 ans, 18 ans, 44 ans, 19 ans, 43 ans. Bon bref, ils ont
donc il vaut mieux être, avoir un âge impair, en fait.
De l'inégalité, voilà, tout à fait. Pour résumer, c'est vrai qu'on peut résumer la situation ainsi. Si vous avez débuté à un âge pair, vous êtes perdant. Si vous avez débuté à un âge impair, vous êtes gagnant.
Voilà. Non, mais regardons ce tableau, s'il vous plaît, parce que ça se... Vous l'avez écrit, très bien commente. Expliqué, mais on a aussi un tableau qui le montre, voilà. Ça, c'est la simulation avec la fameuse réforme ajustée, et qui montre bien, voilà, qu'il y a une alternance, hein, voilà, la ligne bleue, là. On passe de 44 à 43, 44 à 43, bon, voilà. Après, c'est...
C'est-à-dire que c'est la borne d'âge logique. Pour les 14 ans et 15 ans est la même, et donc forcément, la durée de cotisation diffère d'un âge à un autre, mais c'est vrai que lorsqu'on voit le tableau, on voit très clairement que ça crée de l'inégalité entre les générations, entre les personnes qui ont commencé à 14, à 15, à 16, à 17, à 18, à 19.
Mais c'est
surtout, incompréhensible.
C'est surtout que c'est basé sur rien, en fait. Rien de tangible. Il n'y a pas d'explication.
Il n'y a aucune explication qui n'a été donnée.
C'est une catastrophe. Résumons-nous. Est-ce que c'est une catastrophe, ce texte ?
Mais en fait, quand on en arrive à des impasses pareilles, c'est-à-dire que quand vous choisissez de communiquer sur une partie de votre texte et que vous en arrivez à des absurdités que vous ne pouvez même pas défendre parce qu'il n'y a aucune autre logique que comptable, c'est probablement une usine à gaz dans laquelle quelqu'un a dit « Ah bah tiens, si on fait comme ça, ça va marcher, ça va passer parce qu'on aura tant de recettes. » À un moment donné, vous faites de la politique. Pourquoi est-ce que c'est ingérable ? Parce que ça impacte complètement la compétence. Quand vous voyez quelque chose comme ça, vous vous dites « je suis quelque part gouverné par des zozos, des types qui racontent n'importe quoi et qui ne se soucient même pas de faire des projections pour être crédible. Donc non seulement on me prend pour un crétin, mais en plus ces gens qui me prennent pour un crétin sont tellement incompétents qu'ils ne sont même pas capables de faire des réformes compréhensibles, explicables et logiques. C'est un échec sur toute la ligne.
De l'aveu même d'un ministre, oui. proche du dossier, je vais être un petit peu vulgaire, excusez-moi sur ce plateau, c'est une connerie.
Oh, cette ça mesure. Va, c'est pas vulgaire, non, connerie. Oh,
cette mesure,
là, c'est passé dans le langage mesure, courant, Florian.
C'est passé dans le langage courant, mais pour le citer, effectivement, je prends peut-être des pincettes par rapport à ce qu'on a pu entendre à l'Assemblée nationale.
Ou des technos, comme le disait un de nos invités hier, en l'occurrence François Pupponi, il nous disait, vous étiez là, Florian ? Ce sont des technos qui font ces textes. Ils comprennent rien. Enfin, en tout cas, ils ne sentent pas le pays. Ils n'ont pas de logique comptable non plus derrière. Ils font des choses basées sur des modélisations qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Et ils disaient, au fond, ces technos, ce sont des menteurs.
Moi, je rajouterais derrière le mot techno, techno incompétent, parce qu'il y a des technos compétents. Je veux dire, le politique a toujours eu besoin de techniciens. Et d'ailleurs, le technicien doit être au service d'une pensée politique, d'une vision politique. Or là, on a le sentiment qu'on a affaire à des technos incompétents, qui sont dans la confusion la plus totale. Comment voulez-vous qu'une réforme de cette importance, de cette ampleur dans le pays puisse passer avec autant de flou ? On est dans le flou sur tous les sujets. La question de la pénibilité, rien n'est clair. La question des femmes, rien n'est clair. La question des seniors en fin de carrière, rien n'est clair. La question des 1200, rien n'est clair. Mais très franchement, on a mis la charrue avant les bœufs. Ouais. On ne pose pas une réforme avec un départ à 64 ans si on n'a pas traité tous ces sujets en amont dans un débat à l'Assemblée nationale avec les partenaires sociaux. Or, le gouvernement a fait le contraire. Il a posé les 64 ans et les 43 et 44 annuités en disant « c'est pas négociable » et maintenant on va peut-être un peu parlementer sur le reste. Mais ça marche pas comme ça. Enfin, je veux dire, on fait plus de la politique, là.
Pascal Bitopanelli, il y a des Français, originellement, je pense qu'ils sont de moins en moins nombreux, les chiffres le montrent, hein, sondage après sondage, qui se disaient, oui, il y en a qui croient dur comme fer qu'il faut aller vers la tendance des autres pays européens, qu'il faut travailler plus longtemps parce que c'est la marche des choses et que c'est comme ça. Et même, je pense qu'aujourd'hui, même les plus résolus à l'origine, dans leur volonté d'aller dans le sens de l'exécutif, se disent, attendez quand même, nous, on n'est pas contre repousser l'âge, etc. Mais il y a quand même un loup dans cette réforme. Eux aussi, ils deviennent de plus en plus défiants. Est-ce que c'est votre sentiment ?
Oui, ça l'est. Je vois des gens tellement différents à travers maintenant de mes fonctions dans le privé qu'on peut voir des jeunes qui sont extrêmement motivés pour avancer, travailler, se réaliser, mais qui, toujours au fond d'eux, une très grosse notion d'incertitude, d'incompréhension sur ce qui se passe. Et de perte de confiance grandissante de l'homme politique. Donc, ils se demandent vraiment très réellement où ils vont et on sent qu'ils sont inquiets.
Mais je pense que les Français veulent travailler, hein, parce que ce procès-là, il faut arrêter de le faire. Les Français sont prêts à travailler. Après, c'est normal qu'on se soucie des conditions à la fois travail, de revenus, et c'est quand même la moindre des choses. Et sur tous ces aspects-là, le politique doit apporter de la clarté. Or là, on baigne dans l'ambiguïté permanente. On a affaire à des slogans de la part de la bouche des membres du gouvernement. Ce n'est pas de la politique, le slogan.
Oui. Allez, un dernier mot, Céline.
Ils ont compris que la question, c'était toute la question du travail au-delà de la retraite. Et on isole complètement la retraite, on la coupe même tous ces liens avec l'organisation du monde du travail. Et en face, ils ont des technos arc-boutés sur des principes psychorigides complètement absurdes, où à la fin, ce sont les gens qui commencent le plus tôt à travailler qui doivent cotiser le plus longtemps. Comment voulez-vous qu'un peuple puisse se dire « je vais aller quelque part avec des dirigeants pareils » ?–
Surtout, il ne faut pas avoir fait 10 ans d'études pour comprendre que ce n'est pas du tout logique.
– Et surtout, face à un tel constat, comment est-ce qu'un gouvernement peut à ce point-là refuser d'ouvrir les yeux et de dire « on a fait une bêtise, là-dessus, on arrête les frais ». Non, ils inventent une usine à gaz encore plus incompréhensible.
– Et puis comment se fait-il que tout ça n'était pas sous la table dans les fameux rounds de concertation avec les syndicats ? Ça, c'est quand même le mystère et boule de gomme.
Après, les syndicats n'ont jamais évoqué, là pour défendre peut-être le gouvernement, cet aspect-là.
Oui, c'est vrai.
C'est-à-dire que lors des différents rounds, justement, la situation actuelle est profondément injuste pour les personnes qui ont commencé à travailler tôt. C'est-à-dire que les personnes qui ont commencé à travailler tôt dans notre pays, en général, font des métiers plutôt pénibles, manuels, où il y a une pénibilité qui est accrue en fonction donc de l'âge à laquelle ils ont débuté. Et ces personnes-là cotisent une année de plus que les autres. Pourquoi ? Il n'y a aucune raison à cela. C'est vrai qu'on aurait pu aborder cette question.
Ils auraient pu gratter un peu plus loin.
Ils auraient peut-être pu aussi, les syndicats, gratter un petit peu plus.
Il nous reste très peu de temps. Je suis désolée de vous couper, mais on aimerait retourner dans le cortège. C'est la fin du cortège parisien où se trouve Augustin Donadieu. Augustin qui est donc place d'Italie, je l'imagine. Dans quelle ambiance cette dispersion, on va dire, du cortège ?
Eh bien, dans une très bonne ambiance. Alors, vous le voyez sur ces images, la place d'Italie peine eh bien, à accueillir tout le cortège qui est encore en train d'arriver ici. Un cortège majoritairement, en tous les cas en tête, composé de jeunes, puisque les syndicats lycéens et étudiants ont été fortement mobilisés aujourd'hui pour cette cinquième journée de mobilisation. Alors, une ambiance bon enfant dans le cortège syndical. En revanche, il faut quand même noter, il faut quand même le dire, quelques tensions très brèves, très, comment dirais-je, pas majoritaires en tous les cas. Des petits feux de poubelle du mobilier urbain, comme vous le voyez, qui a été dégradé. Un point de crispation tout à l'heure devant le commissariat de police du 13e arrondissement, où effectivement quelques éléments radicaux, beaucoup moins nombreux que lors des dernières manifestations, eh bien, ont tenté de provoquer les forces de l'ordre casquées avec leurs boucliers à la main. Tout cela s'est résorbé très rapidement en quelques minutes. Et là, le cortège, qui est donc à l'arrêt, puisque la place de la République peine à accueillir tous ces manifestants qui affluent et continuent d'affluer ici place d'Italie. Pardon.
Merci beaucoup, oui. Augustin Donadieu. Allez, on va se rendre séparer sur ces images, marquer une courte pause et revenir dans le cortège d'Albi, notamment. À tout à l'heure. À l'heure qu'il est, les différentes manifestations sont en train d'arriver à leur point d'achèvement. C'est le cas à Paris, où nous serons dans un instant. C'est le cas à Albi, également dans le Tarn, où on a défilé en grand nombre et pendant de longues heures sous un beau soleil. Marine Sabourin, on arrive à la fin de cette manifestation. Les syndicats sont-ils satisfaits aujourd'hui ?
Oui, Nelly. Alors, ce que disent pour l'instant, eh bien, les membres des différents syndicats nationaux, c'est qu'ils sont satisfaits. Hein, vous le disiez, de cette manifestation. Nous sommes place du Vigan au niveau de la tête de cortège qui vient tout juste d'arriver. Voilà, nous avons atteint les 3,5 km. Alors, vous le voyez sur l'image de Thibaut Marcheteau, les leaders sont toujours présents. Ce que l'on peut dire, c'est que cette manifestation qui se déroule depuis 14h30, eh bien, est dans le calme depuis tout à l'heure. Hein. Alors, il y avait peu de jeunes autour de nous, mais énormément de retraités venus soutenir ceux qui travaillent encore. D'autres sont sur le point de partir à la retraite et donc s'inquiètent de leur avenir. Et puis la particularité de ce cortège, c'est que les Albigeois sont venus nombreux pour assister à cette manifestation. Ils étaient curieux, ils voulaient voir ce qui se passait dans leur ville. Et puis donc, je vous le disais, nous avons échangé avec ces manifestants qui sont satisfaits. Selon eux, l'objectif est atteint. Ils nous ont tout de même précisé que ce n'était qu'une étape dans cette contestation, car le prochain rendez-vous est donné le 7 mars prochain, où un appel à bloquer le pays a été lancé par les leaders syndicaux.
Merci beaucoup Marine Sabourin et merci à Thibaut Marcheteau qui se trouve donc avec vous. Dans le Tarn, on prend la direction de Paris. Nous sommes quelque part du côté de la place d'Italie, on l'imagine, avec Mickaël Dos Santos. Bonjour Mickaël, vous êtes en compagnie d'un chauffeur routier. On en parlait des chauffeurs routiers tout à l'heure. Profession stratégique s'il en est pour cette mobilisation contre la réforme.
Effectivement, je suis avec Eusebio, 53 ans, qui est donc chauffeur routier, qui fait ce métier maintenant depuis presque 30 ans. Eusebio, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, en quoi votre métier au quotidien est pénible, Eusebio ?
Notre pénibilité de transport, c'est qu'on n'a pas des horaires de manger, on n'a pas des horaires fixes pour dormir. On démarre des fois le dimanche soir, on roule toute la nuit, il faut dormir la journée. Et après, on démarre la journée pour dormir la nuit. Et on n'arrête pas d'ouvrir et fermer le camion pour qu'on puisse décharger. On décharge nous-mêmes, des fois, nos camions. Et c'est une pénibilité. On fait des tâches. On fait trop de tâches dans notre métier.
Des pépins physiques, des maladies aussi ?
Oui, tout à fait. On a physiquement, c'est fatigant. Et des maladies, des pathologies, par exemple comme le diabète, parce qu'on n'a pas une hygiène de vie comme tout le monde. Et c'est diabète, de la tension, de... Il y en a beaucoup de routiers qui sont morts de crise cardiaque parce que enfin l'alimentation il correspond pas.
Et pour vous, c'est inenvisageable de bosser en tant que chauffeur routier jusqu'à 64 ans ?
Mais jamais de la vie. Nous déjà avant quand il y a eu la réforme de la retraite de 60 ans à 62 ans, et nous, on était, le CFA, on était déjà à 55 ans, ils nous ont monté encore 2 ans, on est à 57 ans. Moi, la plupart des conducteurs routiers que je connais, ils prennent le CFA à 57 ans parce qu'ils ne peuvent plus. La preuve, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de jeunes qui font ce métier-là maintenant. Il y a une pénurie des chauffeurs routiers. Et pourquoi? Pour que les jeunes ne veulent pas venir, parce qu'il y a une pénibilité pas possible dans ce métier.
Vous allez manifester le 7 mars prochain?
Oui, tout à fait, oui.
Pour vous, c'est la seule manière de vous faire entendre?
C'est la seule manière de faire entendre. Et c'est ce que je pense. Les gens qui font cette loi-là, ils ne savent pas ce que c'est la vie. De travail. Et ça parce que c'est la vie de travail. Je pense que le mieux à faire, c'est de faire des formations avec des chauffeurs de routier, avec des maçons, avec des femmes de ménage, avec des infirmiers, qu'ils aillent faire des formations au stage avec ce métier-là pour savoir que la vie de travail.
Voilà, c'était le témoignage d'Eusebio qui va donc manifester le 7 mars prochain et qui sera là pour cette nouvelle journée de mobilisation.
Merci beaucoup, Michael Dos Santos, sur des images de Nicolas Vinclair. Céline Pina, cet homme, il a tout résumé. C'est-à-dire que qui a envie de travailler dans ces conditions qu'il décrit, avec tous les problèmes de santé qui sont le corollaire de cette activité, jusqu'à 64 ans? Enfin, c'est impensable.
Il ramène vraiment l'humain et la dimension humaine au cœur de ce dossier. Et ce que je vous disais la dernière fois, c'était que Bismarck avait demandé, au moment où en Allemagne on commence à faire la première réforme des retraites, il pose la question en disant: à quel âge dois-je mettre la retraite pour n'avoir jamais à la payer? Et bien, des fois, on a l'impression que le gouvernement est dans cette logique-là.
Karim Zeribi, même les macronistes purs et durs ne peuvent pas ne pas voir que ce flou est quand même plus qu'artistique aujourd'hui.
Moi, quand j'entends nos correspondants, il y a quand même un air de tous ensemble dans ces manifestations qui peut prendre forme. Cet air de tous ensemble, c'est qu'il y a une base qui est un noyau dur de gauche, certes, qui émane des syndicats, qui émane des mouvements de gauche sur le plan politique, mais qui va s'agrandir et s'élargir avec des gens qui n'étaient pas défavorables, demeurant, à une réforme des retraites, mais qui sont totalement défavorables à celle-là, parce qu'elle n'est pas cohérente, parce qu'elle est ambiguë, parce qu'elle est floue. Donc, et il y a des femmes et des hommes qui étaient peut-être favorables à la démarche d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle et qui disent non, qui font partie des 67%. Et c'est là où le gouvernement s'est complètement planté. Il a rallié à la cause de l'intersyndicale des femmes et des hommes qui n'étaient pas fondamentalement défavorable à une réforme de retraite, mais pas celle-ci. Et c'est ça qui va se passer à partir du 7 mars, pas cette réforme-là. Et je crois que le peuple de France va se focaliser et se structurer, s'agréger autour de ce non et de ce refus.
Et puis juste une petite précision, les vacances scolaires, certains sont en plein dedans, d'autres les entament. Les vacances scolaires, ça veut dire qu'on se retrouve parfois en famille, ça veut dire qu'on discute de tous ces sujets et qu'on peut convaincre aussi autour de soi du bien fondé de la contestation. Peut-être que ça va jouer aussi avant le 7 mars, Florian.
Oui, et c'était aussi la logique de l'exécutif en décembre dernier, où il espérait, normalement, je le précise, la réforme devait être présentée quelques jours avant le début des vacances scolaires d'hiver.
Il se dit, allons-y, trêve de Noël.
Voilà, trêve de Noël, premièrement, et deuxièmement, l'effet d'Inde, où justement, on discute de cette réforme des retraites, où potentiellement les aînés pouvaient convaincre les plus jeunes: allez, faites un effort pour pouvoir financer notre système ces prochaines années. Ils ont décidé de renoncer à cela, de présenter la réforme des retraites après les vacances d'hiver, tout simplement parce que justement, ils ont vu qu'il y avait un début de contestation important dans la rue, où les Français étaient plutôt divisés sur ce projet de réforme.
C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous d'être venus. Merci beaucoup, Pascal Bitopalelli. La prochaine fois, on verra si vous pouvez commenter des images le 7 mars. Vous serez présent au rendez-vous,
avec
parce
plaisir.
Qu'on attend aussi cette mobilisation, de voir ce que ça va donner. Dans un instant, bien sûr, rendez-vous avec Laurence Ferrari. C'est le début de Punchline. Et je vous retrouve demain, 15h30. Excellente fin de journée.